Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Tout d'abord, je voudrais commencer cette émission en parlant de ce magazine, L'Incorrect, puisque
Très
si
bien
vous
ce magazine.
appréciez Charles, eh bien sachez que déjà, il est en première page, mais il n'est pas en première page pour rien, c'est parce que vous avez fait un entretien d'une dizaine de pages avec Philippe Diribarne, notamment sur la question de la situation de la France, c'est comme le dit le titre, face au chaos mondial.
Et là, je sais pas, j'aime pas beaucoup le mot chaos parce que
Oui.
c'est un ordre nouveau qui surgit,
C'est
c'est pas
vrai,
du
c'est
tout
vrai.
chaos.
Enfin,
Enfin,
c'est une, comment dire, un peu une redistribution des cartes qui semble peut-être
voilà.
chaotique sur le moment, mais
Chaotique,
qui,
mais.
ça ne veut pas dire que le monde va s'effondrer la
Ouais,
semaine
bien sûr que non,
prochaine.
bien sûr que
C'est
non.
pas ça. Mais voilà, c'est un peu le sens du titre. Mais derrière, c'est un entretien plus posé tout de même. Et puis tout à fait intéressant. Je pense
Et puis, M. Diribarne est un homme qui a beaucoup écrit, beaucoup pensé, beaucoup travaillé. C'est très agréable de travailler avec quelqu'un avec lequel on peut avoir des opinions divergentes, mais qui est posé, réfléchi, tranquille. Ça fait un bien fou, quoi.
Oui,
Et on peut parler doucement
tout à
sans
fait,
s'énerver,
sans
et
se mettre
longuement.
dessus. Ouais, tout à fait. Et avec l'idée quand même générale, c'est l'honnêteté intellectuelle tout de même.
Bah, l'honnêteté intellectuelle, et l'autre est peut-être pas une ordure, quoi.
Oui.
On a des doutes, mais c'est peut-être pas une ordure, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il est peut-être convenable, quoi.
Tout à fait. C'est sûr qu'on a un peu, je trouve, dévoyé le sens du débat. C'est-à-dire que le débat est devenu, bien sûr, il y a la
Un
culture
combat.
de la joute verbale, c'est classique, mais le débat est devenu juste, je trouve, la volonté d'imposer absolument sa vérité et d'imposer aussi des thèmes et des anathèmes vis-à-vis de son adversaire et qui est de plus en plus vu comme un ennemi
Oui,
aussi.
bah,
Et,
Monsieur Diribon, enfin, c'est pas mon ennemi, et
Non, bien
j'espère
sûr.
que je suis pas le sien, quoi. Enfin, c'est, en
Oui.
tout cas, comme c'est un homme très bien élevé, si c'était le cas, il l'a pas montré.
Voilà.
Ce qui prouve encore une fois de plus que l'éducation, c'est très bien.
Oui, effectivement. En parlant d'éducation, tiens, c'est littéralement le premier thème que je comptais aborder, puisque, comme promis, nous parlions de la Chine la semaine dernière. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes strictement obligé de regarder la vidéo de la semaine dernière si vous voulez regarder celle-ci. On va traiter de sujets tout à fait différents mais complémentaires. La semaine dernière, nous avons traité pas mal de la situation, comment dire, industrielle, énergétique,
Oui.
politique de la Chine, sans concession mais sans se mettre des œillères non plus, en essayant encore une fois de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, d'essayer d'approcher de la vérité. Tout d'abord, je voudrais parler d'éducation. Quelle est un petit peu la situation de l'éducation en Chine? Est-ce qu'elle a beaucoup évolué ces 20 dernières années? Est-ce que c'est la même chose,
C'est
comment
vrai,
dire, à
c'est
toutes
très
les strates?
extraordinaire. C'est vrai, c'est très extraordinaire ce qui s'est passé en Chine parce qu'il y a assez peu d'exemples semblables dans l'histoire, mais. Vous remontez 40, 50 ans en arrière, vous avez une grosse partie de la population chinoise qui vit à la campagne. Et bon, ben, ce sont des paysans, et on ne peut pas dire que la campagne se prête à une éducation particulièrement poussée. Vous voyez, donc on leur
Ouais.
apprend, si j'ose dire, on leur apprend à lire, à écrire, tout va bien. En l'espace de 30 ans, il y a un peu plus de 500 millions de Chinois qui sont passés de la campagne à la ville. Et qui sont, il y en a un nombre tout à fait considérable qui sont passés du stade de paysan au stade d'ingénieur, quoi.
Ouais.
En une génération, pouf. Mais je parle de dizaines, de centaines de milliers, de millions, après, ce serait des centaines de millions de gens. Donc, vous avez eu à la fois cette extraordinaire poussée de la Chine vers l'urbanisation, vers une économie moderne, vers des infrastructures modernes, et ça s'est accompagné aussi d'un énorme bond dans la qualité du travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que la Chine fait plus d'ingénieurs que le reste du monde mis ensemble, ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Donc, ils ont réussi quelques paris incroyables. C'est le pari économique de la croissance, et puis le pari aussi de changer la nature presque fondamentale de leur force de travail
Ouais.
en une génération, quoi. Moi, je regarde ça, je me dis, ben.
Bien sûr, aujourd'hui, il y a énormément de diplômes universitaires et 33%, donc un tiers, des First University Degrees, donc l'équivalent des licences pour nous, sont des licences en fait en ingénierie,
Donc voilà,
ce qui est colossal,
dans des
hein.
sciences dures, en fait.
Ouais, dans des sciences dures, effectivement. Et alors, ça ne veut pas
Et
dire que les
assez peu de
sciences,
sociologie, quoi.
voilà, il y en a pas autant qu'en France, c'est sûr.
Et donc c'est pas du tout. Comment ils ont réussi ça? Ben, ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont fait une capture de l'épargne. Et ils ont investi massivement. Et contrairement aux imbécilités de l'Union soviétique, ils ont réussi ce paradoxe extraordinaire d'investir dans des activités compétitives, rentables.
Ouais.
Et ils n'ont pas tellement gaspillé le capital, si vous voulez. Ils n'ont pas. Donc, ils ont maintenu une espèce de standard de qualité, y compris dans l'éducation. Et vous vous dites, bravo les gars, parce que nous, aussi bien de la qualité, etc., des travailleurs en France, etc., on aurait pu la faire monter par l'éducation, mais l'éducation qu'on a donnée n'était pas la bonne, c'était pas celle qu'il fallait. Donc, je sais pas, ils ont l'air de mieux comprendre les besoins du long terme que nos élites, voilà.
Oui. Effectivement, c'est-à-dire que il y a vraiment cette culture de l'ingénierie, c'est-à-dire que nous prêtons davantage d'attention vis-à-vis de ce qu'on appelle les sciences humaines,
qui n'ont rien d'humain et
oui, qui n'ont surtout rien de scientifique.
Exactement, les sciences humaines. Et donc on a assez c'est que les sciences molles là qui ont pris le nom de science pour faire croire qu'elles étaient sérieuses, ouais. Mais ça n'a jamais été.
Et qui n'ont d'autres débouchés que de juste entretenir la filiale professorale en quelque sorte. On forme des prochains professeurs pour faire plus de professeurs.
Dans des domaines non concurrentiels, si vous voulez.
Ouais, bien sûr.
C'est pas très difficile. Donc je sais que par exemple dans un certain nombre de nos pays de l'Ouest, le niveau mathématique s'écroule parce que c'est dur les maths.
Oui.
Alors tout le monde veut aller vers les trucs faciles.
Oui, tout à fait. Et on facilite beaucoup plus le fait de laisser tomber les maths. Ce qui est problématique, non pas parce que à chaque fois j'entends ces discours qui consistent à dire oui, mais ça va me servir à rien dans la vie.
Pour bâtir un pont, je vous assure que ça sert à quelque chose.
Bien sûr, mais je veux dire, pour 80% de la population, même plus, sans doute, ça sert à rien effectivement de savoir calculer une dérivée seconde. En revanche, les maths, ça forme l'esprit.
Et puis la discipline.
C'est quand même fondamental. Et une discipline, absolument.
C'est comme une langue étrangère, en quelque sorte, les maths.
Ouais.
Et oui, en effet, ça force une discipline.
C'est comme le latin, pareil. Personne ne va parler latin. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, parce que de toute façon, c'est pas dans votre vie derrière que vous allez apprendre le latin. Donc, je suis pas du tout d'accord avec ces discours qui consistent à dire que limite on doit apprendre à créer une entreprise ou à payer ses impôts à l'école. En fait, c'est pas fait pour ça.
Non, c'est pas fait pour ça.
On a tout le temps d'apprendre à le faire après.
L'école, c'est fait pour apprendre. Apprendre à apprendre, pas.
Absolument.
C'est tout, c'est pas apprendre des choses, c'est pas. Donc oui, ils ont fait une transformation remarquable. Alors ils ont un énorme problème maintenant, c'est la démographie, un peu comme beaucoup de pays en Asie. Parce qu'ils ont bâti un système éducatif qui est quand même très lourd. Et puis maintenant, ils vont se retrouver avec moitié moins d'enfants, quoi. Mm-hmm. Donc, là, il va y avoir des problèmes d'ajustement de ce système au petit nombre d'enfants.
Ouais.
Puis il faut qu'ils attaquent ce problème de la démographie. Alors ils essayent à Singapour, ils essayent un peu partout en Asie, mais pour l'instant c'est un bide total, quoi. Donc le vrai problème de l'Asie à moyen terme, ce sera ce problème de la démographie.
En
Corée, ils sont à 0,9 enfants par femme.
Même je crois que c'est descendu à 0,7, 0,8, extrêmement peu. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle de la dénatalité en Europe, et c'est absolument vrai, mais il y a quand même une différence fondamentale entre un pays dont la natalité est à 1,5 et un autre qui est à 0,8. C'est
tout
vraiment
fait,
pas
mais
la
je
même
sais
chose.
Que l'Italie qui est aux alentours de 1, la population va baisser de moitié dans les 30 ans qui viennent. Quoi,
tout à fait. Et alors
c'est quand même étonnant.
Pour la Chine, cette chute est quand même plus récente, ce qui fait que dans les. Alors, la population chinoise a commencé à décroître en 2022 à peu près, mais c'est quand même très, très léger et on estime, d'après les estimations, qui ne font que bouger en permanence, donc voilà. Mais on estime que elle va perdre à peu près 100 millions d'habitants d'ici 2050. Donc on se dit par rapport à 1,4 milliard à peu près, c'est pas énorme.
Mmh.
En revanche, de 2050 à 2100, elle perdrait la moitié de sa population.
C'est ça, elle arriverait au stade italien.
Donc on arriverait à une Chine de 650 à peu près millions d'habitants.
Et qui serait pas très jeune. Hein.
Oui, en plus de ça. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est...
La même chose se passe en Russie, la même chose se passe en Corée, la même chose se passe au Japon, la même chose se passe en Italie. Donc il va y avoir un problème qui va se poser à tous nos systèmes éducatifs.
Ouais.
c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus des professeurs quand il y a plus d'enfants, quoi.
Ouais, tout à fait. Et puis la question aussi de, comment dire, de la productivité, des infrastructures, etc. Alors la productivité brute, elle est un peu son manque de productivité dans le futur est un peu contrecarré par tout ce qui est robotique. Donc ça, on peut se dire effectivement, ne pas avoir un travailleur dans le futur, c'est pas forcément très grave parce qu'on peut avoir trois robots qui le remplacent. Ok, peut-être. En revanche, c'est vrai qu'on a bâti tout un tas d'infrastructures. Et d'ailleurs, la Chine, on a fait un petit peu les frais récemment avec la crise de l'immobilier. Et on peut se dire, est-ce que ça va être vraiment utile dans le futur? Est-ce que c'est utile de faire comment dire, des investissements massifs dans ces domaines-là, même pour le futur, parce qu'on se dit, oui, mais si on a juste une population qui décroît de 50% dans les 60 prochaines années, est-ce que c'est
Parce qu'il y a
vraiment
besoin de
très
bâtir
utile?
de l'immobilier aujourd'hui.
C'est ça.
Alors, oui, mais il faut aussi trouver des solutions innovantes, par exemple. Et peut-être l'absence d'enfants vient du fait qu'on vit tous dans des cages à lapins qui font 40 mètres carrés.
Alors ça,
Donc,
oui.
on pourrait
Et
peut-être
encore 40
envisager.
mètres carrés, parfois vous êtes
Vous êtes
généreux.
généreux. Mais vous pouvez peut-être essayer de faire des espèces de villes-villages où les
Ouais.
familles pourraient avoir des enfants, etc. Donc, ça, les Chinois, j'imagine, y pensent. Mais il est certain que dans tous nos pays, il va falloir qu'on s'habitue à l'idée que la population va baisser.
Vrai.
Et dans ce qui concerne les placements, ça a une influence énorme parce que, comme je le dis toujours, maintenant les petits-enfants en Italie, ils ont quatre grands-parents. Vous me direz, tout le monde a quatre
Ouais.
grands-parents. Sauf que c'est le seul petit-enfant de ses quatre grands-parents. Donc ça veut dire qu'il va avoir quatre biens immobiliers qui vont lui tomber dessus, quoi.
Ouais.
Il
Ce
n'en
qui
a
va
pas
faire
besoin de
chuter
quatre.
logiquement le prix de l'immobilier, puisque
Ben,
si
à
on
quoi ça
a.
sert? Oui, c'est
Ah,
ça.
oui, bien sûr.
Vous avez, donc, une partie importante de la valorisation des actifs dans le monde, c'est quand même l'immobilier, hein.
Ouais, bien sûr.
C'est très important dans tous les pays du monde. Donc, si d'un seul coup l'immobilier perd de la valeur,
Ouais.
ça va avoir un effet sur les autres placements aussi, quoi.
Ouais. Alors après, c'est justement dans une optique de vouloir renataliser en quelque sorte, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose dans le sens où
Que
ça va être.
l'immobilier baisse.
Voilà, l'immobilier baisse. Et là, parfois, j'entends un peu un double discours qui n'a pas vraiment de sens quant à la Chine. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un désastre, la chute de l'immobilier, parce que bah, y a plein de gens qui avaient leur placement là-dedans. Mais à la fois, c'est quand même extrêmement cher pour des jeunes familles de se loger. C'est-à-dire, c'est un peu soit l'un, soit l'autre. Soit c'est un
C'est beaucoup
désastre.
moins cher. C'est beaucoup moins cher que ça ne l'était il y a une dizaine d'années.
C'est
Déjà, parce
ça.
que d'abord, les
Les
taux
prix ont
d'intérêt ont
baissé d'à
beaucoup
peu près
baissé.
20% quoi, en
Oui,
moyenne.
les taux d'intérêt ont beaucoup baissé. L'immobilier a beaucoup baissé. Donc,
Ouais.
aujourd'hui, et surtout dans les villes secondaires, ça a encore beaucoup plus baissé. Donc, l'immobilier, c'est un machin qui se dégage avec le temps. C'est-à-dire, j'en ai vu trois ou quatre crises qu'à Hong Kong. Les gens prennent une gamelle parce qu'ils ont acheté trop cher. Ils attendent, et puis au bout de 10-15 ans, ben, ils ont fini de payer, et bon,
Ouais.
ben, ils ont fait une mauvaise affaire pendant 10 ans, leur niveau
Oui.
de vie, mais au bout d'un certain temps, bon, ben, ils ont remboursé leur dette, l'immobilier est à eux. Bon, il est moins cher que ce qu'ils espéraient, mais voilà, c'est pas, il
Ouais.
n'y a pas de... Le frein immobilier, ça n'existe que pendant que la dette existe. Dès que la dette est plus là, ben, il n'existe plus, quoi.
Ouais. Et de toute façon, ce problème de la natalité aussi, on en parlait il y a quelques mois, on faisait une émission spéciale là-dessus. C'est un problème qui est absolument mondial, alors qui est plus
Absolument.
prononcé aujourd'hui en Asie, qui est un peu plus ancien en Europe, globalement, depuis les années 90.
Ben, il y a l'Allemagne. Très curieusement, il y a un certain nombre de pays comme la Pologne et tout qui commencent à avoir aussi des gros problèmes. Parce que la Pologne, elle avait un vieux fonds chrétien,
Bien
mais
sûr.
la moitié de la population n'était pas tellement chrétienne, enfin beaucoup moins que le
Tout à
reste.
fait. Ce
Et
qui,
donc.
d'ailleurs, j'en profite au passage parce que parfois on a tendance à penser à droite que l'existence de l'avortement fait que ça fait un différentiel qui fait chuter la natalité. Globalement, si on regarde typiquement l'exemple de la Pologne, qui est un exemple assez unique en Europe où l'avortement non seulement est très difficile à pratiquer, mais est de plus en plus difficile à pratiquer depuis la chute du mur de Berlin, depuis la chute de l'Union soviétique, et ça n'a eu aucune incidence sur la natalité, voire même en fait, elle n'a fait que baisser au fil du temps, alors même que les restrictions n'ont fait que
Oui, non,
augmenter par rapport à cela.
absolument. Donc, c'est curieux, mais quand j'étais jeune, il y a longtemps, la plupart des gens pensaient que, dans le fond, le souhait d'une femme, c'était d'avoir deux ou trois enfants. C'était le truc qu'on considérait comme normal. Si vous
Oui.
voulez. Dans le fond, si une femme était libre, elle aurait deux ou trois enfants, etc. Et puis, on s'est rendu compte, avec le passage du temps et tous les produits pour ne pas avoir d'enfants, etc., dans le fond, il y avait plein de femmes dont le but était de ne pas avoir d'enfants du tout. Quasiment la moitié. Donc, s'il y a eu une erreur, en quelque sorte, de conceptualisation, de ce que voulaient les femmes.
Oui.
Tout le monde était persuadé qu'elles en voulaient deux ou trois, et puis en fait, ben non, il y en a la moitié qui n'en veulent pas du tout.
Oui.
Ça, c'était un peu surprenant. Ce qui veut dire que, à ce moment-là, il faudrait supprimer les allocations famille à ceux qui n'en ont pas ou très peu, et mettre des allocations familiales massives pour ceux qui en ont
trop. Pour ceux beaucoup.
C'est
oui.
un peu ce que fait la Hongrie.
Oui.
La Hongrie, si vous voulez, si vous avez trois enfants, ils vous donnent une maison.
Oui, avec des politiques aussi de défiscalisation, si plus vous avez d'enfants, moins vous payez d'enfants.
Donc, si vous voulez, on a mal analysé aussi quel était le souhait profond des femmes. Ouais. Quoi.
Alors après, même ces mesures en Hongrie, alors elles ont un effet marginal, elles corrigent un peu un manque de natalité, mais ça résout pas quand même le problème global. Quoi. Ça vous fait passer de 1,2 à 1,4 quoi, globalement, mais ça vous fait pas passer à 2,5.
Non, mais il faudrait remonter à 2, parce que c'est un peu... 2,1, ouais.
C'est l'optimum, en tout cas, c'est le renouvellement.
Le renouvellement. Donc là, on a un problème partout. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que l'Inde intéresse beaucoup, parce que l'Inde, qui est en retard un peu sur tout le monde, commence à peine à passer en dessous de 2 aujourd'hui.
Tout à fait. Elle est passée à 1,9 en 2025.
Donc ça veut dire que ça aura, comme les filles qui sont nées maintenant, enfin il y a 20 ans, elles arrivent maintenant, si elles sont à 1,9, ça veut dire la stabilité de la population, mais d'une population qui a grossi dans les 20 ans précédents.
Tout à fait.
Fait boum.
Donc ça fait quand même augmenter, la population indienne va quand même augmenter pendant les 20-30 prochaines années.
Donc tout le monde va foutre ses usines en Inde. Quoi.
Voilà, c'est cela. Et en revanche, après...
C'est pour ça qu'ils vont acheter des valeurs d'énergie en Inde, enfin des gars qui font des centrales nucléaires et tout, parce que si tout le monde met ses usines en Inde, il va y avoir besoin d'énergie là-bas.
Mmh. Ouais.
Donc je sais pas qui va faire les centrales nucléaires en Inde, ils sont sans doute capables de les faire, mais...
Mmh. Et on en parlait, c'est la même chose en Amérique du Sud aussi.
Oui,
dans,
il y a quelques
pays
qui sont pas trop mauvais, mais où est-ce qu'il y a encore il y a quelques
la Turquie, c'est
la
tout
Turquie,
à fait effarant.
C'est effarant, mais ils sont en train de se ratatiner aussi, mais assez tard.
Ouais.
Il y a un pays qu'il faudrait peut-être regarder un jour, quand on faudra peut-être regarder, c'est les Philippines.
Ouais.
Parce que les Philippines, d'abord, ils sont chrétiens, c'est à peu près les seuls dans le tas qui sont chrétiens.
Ouais.
Et pour l'instant, ils ont l'air d'avoir encore une démographie qui marche, il faudrait que je regarde.
Ah, d'accord, ok, j'ai pas regardé, effectivement.
Ouais, je vais regarder, ils sont nombreux, ils sont 120 millions, je sais pas combien.
Oui, c'est tout à fait. Ouais,
Voilà, c'est très bien d'avoir bâti un très bon système d'éducation en très peu de temps. Mais ça veut dire qu'il va y avoir des tas d'écoles secondaires qui vont devoir fermer.
Oui, c'est sûr que la capacité nécessaire va être très différente dans 20 ans par rapport à aujourd'hui.
Ben voilà, c'est comme les fausses écoles de commerce chez nous, il y en a un paquet, elles sont toutes en train de se péter la gueule. Hein, c'est,
ouais.
Parce qu'elles n'ont plus d'étudiants. Quoi.
Oui.
Donc c'est... Encore une fois, il faut regarder la réalité et pas les souhaits qu'on a, c'est très triste. Bon, enfin, c'est une réalité, donc il faut faire avec, quoi.
Ouais, bien sûr. Et c'est vraiment très prononcé, je sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est plus prononcé en Asie. Et par exemple, en France, on a une natalité qui est relativement faible, mais quand même par rapport aux autres pays d'Europe, c'est correct. Alors après, on peut dire que l'immigration booste ces chiffres, donc on sait pas exactement.
C'est
voilà.
Pas forcément, c'est ce qui est embêtant avec la France, c'est qu'on sait pas.
Voilà.
On sait pas quelle est la.
C'est cela, donc forcément, ça a un effet, mais c'est difficile de le quantifier, d'une part.
Mais ça s'effondre aussi en Afrique du Nord en ce moment. Si
oui, tout à fait, tout à fait.
La Tunisie,
on était
ça
à plus de 3 il y a pas si longtemps, et on passe à 2, voire même légèrement en dessous, effectivement. Depuis quelques années, ouais, tout à fait. C'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a des pays comme ça où on se disait que c'est presque culturellement ancré d'avoir beaucoup d'enfants. Bah, finalement, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, mais ça n'est plus le cas. Et encore une fois, la Turquie,
ça veut dire
il y a 10 ans,
les femmes se sont emparées de leur propre décision d'avoir des enfants. C'est plus les hommes qui font les enfants, c'est les femmes, quoi.
Ouais. Mais bon, il y a parfois, je vois des facteurs quand même qui me rendent presque optimiste, en tout cas pas trop pessimiste. Je voyais par exemple hier que le nombre de mariages en France était un plus haut historique depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord les retombées post-Covid où il y a tous ceux qui devaient se marier en 2020-2021 qui se sont mariés plutôt en 2022-2023. En revanche, là, on est du coup au début 2026, donc on a le recul sur 2025 et il y a eu quand même davantage de mariages en 2025 que l'année précédente et c'est un plus haut historique depuis 20 ans. Donc en plus de ça, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a tout de même pas mal d'enfants désirés d'après les enquêtes d'opinion sur cette question. Donc c'est déjà pas mal d'avoir des gens qui désirent des enfants. Ça, c'est vraiment, si même ils les désirent pas, c'est Là, je
Oui,
sais pas
vous
comment
savez,
on s'en sort.
autrefois, on les désirait pas, ils arrivaient quand même. Hein,
Oui,
ils étaient très contents d'être là. Hein, donc,
oui, non, mais on n'avait pas trop d'autres options, c'est vrai.
Les enfants, ils étaient très contents d'être là. Personne n'aurait dit qu'ils n'étaient pas déchirés. Moi, le nombre de gens que j'ai connus dans ma jeunesse, et qui avaient un premier-né à 5 mois, c'était
Ouais.
5 mois, un très grand prématuré, mais enfin, il pesait 4,5 kg. Ce que je veux dire, c'est que il y avait des choses qui se passaient avant le mariage qui étaient parfois.
Oui, tout à fait étonnante.
Tout à fait étonnant, tout à fait naturel, mais enfin, il y avait un peu d'avance. Donc, non, mais tout ça, c'est-à-dire que c'est le changement sociologique le plus important qui s'est produit depuis toujours. C'est la décision d'avoir des enfants ou pas. Maintenant, c'est les femmes qui la prennent. Alors
Ouais,
qu'autrefois,
c'est vrai.
c'est personne qui la prenait ou c'était le mec qui disait, bah, je m'en occuperai, quoi.
Oui.
Non, maintenant, c'est les femmes qui prennent la décision et curieusement, ça n'a pas l'air de les intéresser d'avoir des niards.
Ouais, ou en tout cas, ça les intéresse très tardivement, ce qui réduit les possibilités
Et
d'en
oui, parce que si
avoir.
elles ont, d'après toutes les statistiques démographiques, si elles n'ont pas d'enfants avant 30 ans, elles ont une chance sur deux de ne pas en avoir. Donc ça aussi, on dit aux femmes, vous pouvez attendre jusqu'à 40 ans et c'est du
Ouais,
pipeau, quoi.
ça arrive, mais c'est quand même l'exception, et bon,
Oh,
ouais.
une chance sur deux. Vous savez, il y a la quasi-totalité des femmes qui ont fait des études en Allemagne. Il y en a la moitié qui ne sont pas mariées avant 30 ans.
Ouais.
Et donc ça veut dire qu'il y en a la moitié qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire un quart des femmes qui n'ont jamais d'enfants en
Ouais.
Allemagne.
C'est aussi, d'ailleurs, c'est pas forcément terrible derrière sur le glissement culturel et générationnel, parce que ça fait que bah les enfants absolument formidables qu'on produit et qui vont jusqu'au doctorat bah ont beaucoup moins de chances d'avoir des enfants que ceux qui sont pas allés jusque-là, quoi.
Voilà.
Ils prolongent les études, ils arrivent très tard dans la vie active, bon, c'est pas forcément
Et
le mieux.
non, il y a toute une série de trucs comme ça qu'on comprend pas bien, mais enfin, il y a des changements qui sont passés justement dans le rôle des femmes dans la société, dans le fait qu'elles vont dans tous les boulots. Donc, il y a beaucoup de choses qui dans ma vie ont été complètement transformées,
Ouais,
quoi.
tout à fait. Donc, bref, pour revenir sur cette question de l'éducation en Chine, je donne juste deux chiffres. C'est qu'il y a un petit peu plus de 1 million d'ingénieurs par an qui sortent des universités chinoises. Bon, c'est pas
Ouais,
rien, tout
on
de
doit en
même.
avoir 10 000 en France, je pense. Et encore, même pas 2 000. Qu'est-ce que je dis, 10 000?
Bon, après, on en a des très bons en France, mais c'est sûr, on rivalise pas, quoi. C'est pas la
C'est
même
pas
chose.
en nombre.
Non, c'est sûr. Et même au niveau des doctorats, il y en a 2 fois plus qui sortent en Chine qu'aux États-Unis désormais. Donc, à peu près 60 000 par an en Chine. Doctorant, c'est quand même pas mal pour remplir un stade
Oui,
par
ça veut
an.
dire 6 ou 7 ans d'études, quoi.
Ouais, c'est ça. Même parfois jusqu'à 8. Ouais, tout à fait. Et pareil sur ce alors on en parlait un petit peu la semaine dernière, les montants qui sont mis en recherche et développement en Chine sont absolument astronomiques.
Gigantesque.
Alors déjà encore une fois, il y a aussi la question pouvoir d'achat, enfin parité de pouvoir d'achat ou pas parité de pouvoir d'achat, ce qui fait que c'est difficile de comparer vraiment en volume de dollars
Mais si
parce
vous calculez
que
en tête de pipe,
ouais.
ben là vous voyez que ben je crois que c'est BYD qui a dans son département de recherche plus d'employés que BMW en tout, quoi, ou un truc
Ouais.
comme ça. Donc
Ouais,
ça,
tout à
dans
fait.
le département de recherche, c'est un peu plus d'employés que dans tout BMW, comme vous dites. Il y a un loup, là.
Ouais, bien sûr. Et en plus de ça, c'est aussi des voitures qui vont utiliser des technologies qui ont été faites par d'autres entreprises qui elles-mêmes ont un autre département en
Grandement en
recherche et
recherche, c'est ça.
développement. Typiquement, on parlait aussi la semaine dernière de la question des LIDAR, les
Et oui.
détecteurs de mouvement
De
dans
mouvement.
les voitures pour faire la conduite automatique notamment, pour détecter tous les dangers. Ça aussi, c'est des technologies qui évoluent à une vitesse complètement folle. Et là-dessus, on a aussi beaucoup les Chinois qui sont là-dessus. Sur la production industrielle, on disait aussi c'est la moitié de l'acier produit dans le monde vient de Chine. Alors après, j'avais lu un petit article là-dessus. J'ignore le degré de pertinence. Peut-être que vous m'en direz plus. C'est sur est-ce qu'on a besoin en fait d'autant d'acier? Est-ce que finalement la Chine n'a pas une trop grosse
Alors, certainement,
capacité de
acier,
production?
aluminium, ciment, ils en ont beaucoup trop.
Ouais.
Il n'y a pas le moindre doute. Mais c'est pour ça qu'ils essaient de développer toute la région de Valérie-Pyrénées. Parce qu'ils disent aux gars, les gars, vous n'avez pas
On
besoin
en
de
a
faire.
trop,
On en a trop, on va vous le filer.
ouais.
On va vous prêter de l'argent pour que vous l'achetiez. Donc ça veut dire que ils ont tellement d'acier, etc., que si maintenant, le reste de Valérie-Pyrénées, à part la Chine, veut développer ses propres infrastructures, ben, ils n'ont pas besoin de faire d'abord l'industrie d'infrastructure. Elle
Ouais.
existe déjà en Chine.
Ouais,
Et
tout à
ça,
fait.
Dans un monde idéal, on peut dire que les infrastructures, les producteurs d'infrastructures chinois devraient vendre à l'Inde.
Ouais.
Où ils feraient la transformation ultime vers l'énergie, mais.
Bien sûr. Pour le coup, en Inde, il y a vraiment beaucoup d'infrastructures à faire encore.
Oh là là, parce qu'ils commencent à faire des trains rapides, mais la plupart des trains, il n'y avait aucun investissement fait depuis l'orage, c'est-à-dire depuis que les Anglais étaient partis en 45, quoi.
Ouais. Non, mais vraiment,
il y a tout à faire.
Ouais, bien sûr. Parfois, je vois des scènes en Inde. Alors, il y a un phénomène culturel tout à fait étonnant en Inde, c'est qu'il y a beaucoup de gens, plusieurs. J'ai plus les chiffres en tête, donc je voudrais pas dire de bêtises. Donc je vais rien dire. Mais il y a énormément de gens qui meurent renversés par des trains.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment aucune sécurité autour des rails,
etc. Surtout si un train est rapide, remarquez qu'en Inde, il n'y en a pas des masses, mais il y a beaucoup d'accidents. Puis vous avez les fameuses vaches qui se baladent au milieu de la route, qui s'arrêtent et qui broutent ou qui digèrent au milieu de la route. Mmh. Donc c'est un peu curieux.
Sur tout ce qui est aussi propreté, salubrité, etc. Il y a beaucoup de choses à faire.
Énormément. Donc c'est la prochaine frontière, l'Inde. C'est là où il y a 300-400 millions de gens qui vivent de façon normale, mais il y en a 1 milliard qui sont encore.
Ouais.
Et là, ça va être un défi pour l'Inde parce que pour l'instant, dans le domaine de l'éducation, ils n'ont pas aussi bien réussi que les Chinois. Il y a quand même l'éducation dans les campagnes et tout. Ça reste très très médiocre. Et on paye des professeurs, mais qui vont jamais, par exemple.
Ouais. Ils ont encore en fait aussi un autre problème. L'Inde, c'est que alors ils arrivent à sortir des super ingénieurs, notamment dans tout ce qui est software, etc. Ils sont vraiment, il y en a qui sont très très forts. Pareil, même si on regarde une discipline comme les échecs, il y a de plus en plus d'Indiens.
Matheux, il y en a plein.
Voilà. Et cependant, il y en a beaucoup qui partent aux États-Unis.
Partout, vous en trouvez à Singapour, vous en trouvez dans tout l'océan Indien, vous en trouvez à Hong Kong, vous en trouvez. Donc vous avez des Indiens partout. Et là aussi, c'est d'une force parce que ça leur donne une espèce de diaspora pour ensuite faire des liens avec le reste de l'Asie. Parce que la diaspora chinoise qu'il y avait dans toute l'Asie, c'est ce qui a permis le développement assez rapide du commerce extérieur en Asie, parce que de la Chine, parce que il y avait toujours des Chinois au Vietnam ou partout. Qui était là et qui était toujours en liaison avec la Chine, et donc ça crée un lien immédiat pour trouver des concessionnaires, des capitaux, tout ça. C'est la diaspora la plus riche du monde, la diaspora chinoise. Donc il commence à y avoir aussi une diaspora indienne qui commence à augmenter.
Tout à fait. Mais alors j'ai entendu que de la part de certaines personnes qui connaissent globalement bien l'Inde, que les relations étaient un peu compliquées entre les locaux et ceux qui.
Oui, parce que le seul à l'extérieur. Sur l'extérieur, le coût des castes, ça marche pas toujours, quoi. Je veux dire, ils s'en souviennent plus, quoi.
Oui.
Alors que.
Bah, la caste, ça devient l'argent, quoi.
Ils enrichissent, ils sont là-bas, ils sont.
Bien sûr.
Donc, si le coût des castes, l'Indien qui revient, qui sait pas qu'il est d'une classe inférieure, ça.
Ouais.
D'abord, ça l'agace, et puis, oui. Donc, là, il y a aussi ce problème des castes en Inde. C'est un pays compliqué, l'Inde, mais. C'est. On se rend pas compte comme c'est grand.
Oui, bah oui, c'est colossal, oui.
C'est colossal, et à quel point il y a des populations différentes. C'est un miracle que ce soit resté une démocratie.
C'est vrai.
Mais ils ont des problèmes énormes. C'est que, par exemple, jusqu'à tout récemment, ils avaient d'énormes droits de douane intérieurs entre un État et l'autre. C'est-à-dire qu'il était plus cher, il était moins cher d'aller acheter des trucs en Chine et de les importer dans chacun des deux États que de les vendre d'un état à l'autre à cause des droits de douane qui se mettaient. Donc il faut aussi qu'ils nettoient tout ça. Ils s'y emploient, mais pour l'instant, ça a l'air de marcher doucement. Monsieur Modi a l'air de faire le bon boulot.
Mm-hmm. Et alors derrière, je voulais parler un peu de technologie par rapport à la Chine et aussi de culture marketing, parce que je constate quelque chose, c'est que dans plein de domaines, les Chinois arrivent à produire aussi bien que la concurrence, voire même mieux, et souvent, le plus souvent, surtout pour un prix moindre.
Ah ben, il n'y a pas photo, là.
Si on regarde,
dans l'industrie, il n'y a pas photo, là.
Voilà. Mais, par exemple, je veux dire, même d'un point de vue du consommateur, si on regarde dans la téléphonie, moi, par exemple, j'ai un réflexe, je sais pertinemment, sauf si vraiment il se passe quelque chose de très important que je ne peux pas ignorer, mais je sais que tous les téléphones que je vais acheter, ça va être des iPhones. Mais ça ne veut pas dire que je pense que c'est le meilleur téléphone, ni qu'il prend les meilleures photos, ni qu'il a la meilleure batterie, ni qu'il a le meilleur rapport qualité-prix. En revanche, c'est, comment dire, c'est d'un point de vue marketing, c'est d'un point de vue aussi du software, c'est-à-dire qu'il y a la
Ils vous ont
compatibilité.
complètement coincé pour écouter votre musique,
Mais
pour regarder vos
bien
photos,
sûr,
etc.
bien sûr. C'est-à-dire
C'est pour
qu'on
ça que moi
a.
j'ai toujours refusé d'acheter Apple.
On a une compatibilité software complètement dingue. C'est-à-dire que si je suis avec mon iPhone d'un côté, mon iPad, mon ordinateur devant, vous savez que si je fais par exemple copier sur un test, sur un texte sur mon téléphone et que je fais coller sur mon ordinateur, ça colle le texte que j'avais sélectionné avec mon téléphone. Ça, c'est le genre de truc, comment dire, qui simplifie la vie, qui rend la continuité entre tous les appareils beaucoup plus simple que si j'avais d'un côté un PC, puis un Huawei et puis une tablette Apple de l'autre côté, quoi. Et donc, ça me fait dire que là, je sais pas, par exemple, si les Chinois vont vraiment arriver à s'imposer. Et d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, il y a la marque Huawei qui a commencé à vraiment prendre de
Oh ben
l'ampleur.
on l'a cassé tout de suite aux États-Unis, on a foutu le patron en tôle et tout pour leur apprendre à vivre. Non, on a fait tout pour les casser, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Huawei a survécu. Et maintenant, ils sont en train de réémerger comme un. Ils font même des bagnoles d'ailleurs.
Oui, bah maintenant, de toute façon, les Chinois, ils font absolument tout. Mais c'est pareil pour le principal concurrent en Chine de Huawei, c'est Xiaomi.
Oui.
Alors la différence, c'est que Huawei est soutenu par le Parti communiste et pas Xiaomi. Mais Xiaomi fait pareil des téléphones, ils font des trottinettes, ils font des voitures. Enfin bref, ils font absolument tout, quoi.
Il faut acheter que Xiaomi, parce que s'il n'est pas soutenu par le gouvernement, il ira beaucoup mieux.
Ah, c'est marrant parce que Louis Vincent me disait l'exact inverse.
Oui, mais ça c'est... Moi, parce que j'ai un vieux fond de... Si c'est soutenu par le gouvernement, ça marche pas. Mais parce qu'on en a vu l'exemple en France avec Bull, par exemple. Bull,
Oui,
je sais pas
bien
quoi.
sûr.
Donc dès que...
On
Moi, j'aime bien les gens
retrouve
qui se dépatouillent tout seuls. Vous savez, je me dis, s'ils se dépatouillent tout seuls,
avec
c'est
Boulle,
que...
on retrouve l'ignoble Thierry Breton d'ailleurs dans
Dans
cette
lequel d'autres
histoire.
pays il y en avait plein. Donc, alors, en ce qui concerne la compatibilité,
Ouais.
bon, ils vont travailler dessus parce que ça, c'est pas très difficile du point de vue.
Non, je pense pas que ce
Donc, ce qu'ils
soit
vont
très
faire, c'est
dur.
qu'ils vont faire des appareils qui sont compatibles Apple. Mais là, ça va poser un énorme problème qui existe déjà aux États-Unis, c'est que Apple a monté littéralement avec ses apps, ses applications-là, un système de monopole.
Oui.
Et sur lesquels ils prennent 30% sur chacune des apps, etc. Et s'il y a quelqu'un qui attaque ses apps de l'extérieur, ça va être difficile de prétendre que, je veux dire, Apple a déjà un énorme problème de
Ouais, tout
monopole.
à fait. Alors, par exemple, il y a aussi la technologie du AirDrop.
Oui.
C'est le AirDrop, c'est s'envoyer des fichiers, des photos, n'importe quoi, directement, sans que ce soit par message, ni par mail, ni par quoi que ce soit. Et donc, c'est un transfert extrêmement facilité de documents et d'informations que j'utilise beaucoup à titre personnel. Et jusqu'à il y a peu, c'était un monopole absolu, c'est-à-dire que seulement un produit Apple pouvait faire du AirDrop avec un autre pays, un produit Apple. Et récemment, il me semble que c'est Google qui avec son téléphone a réussi en quelque sorte à pirater le système et à rendre ses téléphones compatibles avec la technologie AirDrop de Apple. Donc ça c'est effectivement sans doute quelque chose qu'on va voir de plus en
Vous
plus
allez
dans
voir de
les autres
plus en
marques
plus, c'est ce qui va se passer aussi, c'est
dans
que
le
j'attends
futur.
avec impatience l'arrivée de Musk dans ces monopoles, parce que le jour où vous aurez votre téléphone qui aura un machin comme ça qui pourra
Qui
prendre des
sera relié au
signaux,
truc,
qui
ouais.
sera relié au satellite
Mais
directement.
alors ça, il y a souvent des informations là-dessus qui reviennent, mais Musk, lui, dément toujours qu'il fait un téléphone. Donc je sais pas, je sais pas s'il travaille dessus ou pas, mais
Ben le problème, c'est celui de l'antenne, hein, parce qu'il faut
ouais.
qu'il y ait une antenne. Alors pour l'instant, les antennes, j'en ai une qui est grande comme ça,
Ouais.
mais il va falloir qu'elle devienne grande comme ça pour pouvoir rentrer dans le téléphone, quoi.
Oui.
Donc ça va être difficile, ça. Mais
Oui.
le jour où ça arrive, ça changera complètement la téléphonie.
Ouais. Après, c'est aussi possible qu'on ait un modèle où juste désormais, soit le téléphone lui-même est relié à des antennes de Tesla, soit peut-être les opérateurs prennent un abonnement au satellite de Musk pour permettre lui aussi de distribuer son réseau aux
Mais non,
autres
le truc
téléphones.
extraordinaire, c'est le jour où vous aurez un abonnement la communication sera au même prix, que vous soyez à Londres, à Stambouctou ou à
Ouais.
Paris, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand je sors avec mon téléphone, Ça m'est arrivé encore une fois récemment, vu que j'étais en Égypte. J'ai pas fait très attention, et ensuite, il a commencé à décharger des trucs.
Ah oui, ouais.
J'ai cru que je pouvais machin, j'allais faire votre vente devant ma maison à Paris pour.
Ouais. Mais cela dit, ça c'est déjà beaucoup plus facilité aujourd'hui par rapport à ne serait-ce qu'il y a 10 ans ou même encore plus de 20 ans.
À chaque fois, oui.
Où là, effectivement, je me souviens qu'envoyer un texto à l'étranger, c'était toute une histoire. Ouais. Bon, désormais, déjà, d'office, en général, quand vous êtes dans la zone Europe, ça vous change rien.
Non, mais aussi, ça va être très facilité, tout ça, parce que c'est la moitié de la population vit dans un écart qui fait que 7% des terres émergées. Donc, si vous voulez, le simple fait de la concentration de ces populations va aider terriblement à la diffusion, justement, de l'information, des messages, des téléphones, parce que ça sera pas, ils sont tous au même endroit, donc. Vous n'allez pas dans les plaines du Kamtchatka, il n'y a pas beaucoup de gens, hein, ça sert à rien. Donc, tout favorise une espèce d'explosion de l'industrie et des communications dans toute cette région.
Oui, bien sûr.
C'est une des grandes thèses que je développe quand je dis qu'on va avoir un marché haussier ricardien.
Oui. Et alors cet exemple des téléphones, c'est pas pour dire que Apple fait fondamentalement les meilleurs téléphones, mais justement ça signifie pour moi que il y a quand même un gap, surtout en fait en Occident, peut-être sans doute moins en Asie, sur le marketing et en fait globalement
sur le marketing, sur la liaison entre appareils qui vous permet de retrouver votre musique, retrouver vos photos, etc.
Oui, mais je veux dire que la Chine parvient quand même difficilement parfois à se vendre à l'étranger, notamment en Occident. C'est-à-dire qu'ils ont un peu de
mais
mal à développer.
Mais parce qu'on l'interdit. Moi, j'ai bien vu, j'avais un téléphone Huawei, et puis d'un seul coup, on m'a dit, non, vous devez acheter un autre, parce qu'on le supporte plus.
Oui.
Donc dans mon téléphone, je sais plus où je suis avec Draghi, là, Draghi. Et ils m'ont dit, on supporte plus ce téléphone, donc vous devez...
Ah oui, avec...
Donc, il y a eu des mesures de protectionnisme monstrueux contre les téléphones chinois, quoi. Donc, ils savent très bien le faire, mais on les en empêche.
Oui, mais il y a ça, certes, mais après, je vois aussi dans le comportement consommateur. C'est-à-dire que les gens sont pas forcément très intéressés de prime abord par les produits chinois, sauf dans certains domaines où vraiment, pour le coup, on s'en fiche de la marque, c'est pas très important. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est en train de changer.
Mais vous savez, c'est ce qu'on me disait sur les voitures il y a 2 ans. Hein. Mais personne ne va acheter une voiture chinoise.
Mais alors, oui. Pareil, encore une fois, Louis Vincent fait le parallèle avec les produits japonais dans les années 50. Où, d'ailleurs, c'était peut-être d'ailleurs de la Camelot à ce moment-là, mais ils se sont considérablement améliorés. Et 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, c'était la norme d'avoir une Toyota, d'avoir des trucs comme ça. On sait que c'est des trucs qui tiennent super bien, quoi.
Non, mais qui sont bien bâtis et tout. Et il y avait même une ville au Japon qui existe vraiment, qui s'appelle USA. USA. Et donc, il y avait plein d'usines parce que c'était Made in USA.
Made in USA, putain. Ouais, c'est pas idiot, ça.
Non, c'est pas idiot, je sais pas s'il y en a une en Chine. Mais... Donc, si vous voulez, c'est le truc normal. C'est... De toute façon, ils font jamais rien. Puis ensuite, ils font des choses, mais c'est invendable. Mais c'est beaucoup moins bien qu'en ce qu'on fait. Et puis, c'est mieux que ce qu'on fait, mais personne n'achètera parce qu'on va pas acheter une voiture japonaise. Et puis, on a plus de froid libre qu'en chez nous parce qu'ils ont tous été foutus en faillite, quoi.
Ouais.
Je sais pas si vous avez vu ce qui est arrivé à ce pauvre Stellantis, là.
Oui.
21 milliards de pertes.
Oui.
Simplement parce que les Européens les avaient forcés à faire des voitures électriques.
Ouais.
C'est 21 milliards d'euros qu'il faudrait mettre devant la porte de la Commission européenne, ça.
Oui, je suis assez d'accord, oui.
Je veux dire, 21 milliards, c'est eux qui les ont forcés à faire des bagnoles. Et donc, entre les 23 milliards qu'a perdu EDF à cause de la Commission et les 21 milliards que perd Stellantis, ça commence à faire lourd.
Ça
commence à faire 44 milliards d'euros perdus exclusivement à cause d'or. Donc, si j'ose dire, quand vous comparez ça à la Chine, où il y a une robuste concurrence, et personne ne donne des ordres de ce qu'il doit faire, je me dis, le pays communiste qui va sauter, c'est Bruxelles, hein, c'est pas la Chine.
Ouais. Et est-ce que finalement, en fait, notre industrie, pas l'industrie européenne, mais l'industrie implantée en Europe, même ne serait-ce que ça pourrait être dans l'automobile, en fait, est-ce que ça va pas être sauvé par les Chinois? Parce qu'on a de plus en plus ce modèle que finalement qui semble faire presque consensus de se dire, on va mettre des tarifs douaniers pour tout le monde, sauf si vous mettez des usines en Europe. Et il semblerait que la Chine, ça les intéresse un peu de mettre des usines...
Un petit peu, mais, si vous voulez, si toutes les batteries sont faites en Chine et comme... la moitié de la valeur de la voiture, ce sera la batterie. Donc, ils vous enverront les pièces détachées et ils donneront l'ordre des gars locaux de filer. Puis vous mettrez ensuite fait en Bulgarie, exporté partout en Europe. Et vous vous retrouvez.
Ils fabriqueront 20 000 voitures en Europe pour en distribuer 20 millions, quoi.
C'est ça. ils feront 20 millions de voitures en Europe, mais qui seront bâties en Chine et on mettra la plaque d'immatriculation à la fin en disant c'est fait en Europe et ça suffira, quoi. Ouais. Parce que c'est très difficile de savoir quand vous importez des pièces. Est-ce que si vous en importez suffisamment, est-ce que vous avez fait toute la voiture en montant les pièces ici? Est-ce que c'est fait ici ou est-ce que c'est fait là? Donc on sait pas. Non mais je crois qu'on peut dire avec sans crainte de se tromper que à part les grandes industries du style justement Air Liquide, Schneider, etc. qui sont restées à la pointe de la concurrence, il y a toute une série d'activités répétitives faites par des robots, etc. qui n'ont plus de raison d'être faits en Europe, quoi.
Et après, pour terminer cette émission, je voudrais évoquer la question du soft power, la culture. Parce que là où, par exemple, l'établissement de la superpuissance américaine s'est fait aussi avec l'exportation de sa culture, la création d'Hollywood, etc. Peut-être que en Chine, il y a un certain attrait pour cette question-là, de plus en plus. Peut-être que ça s'exporte pas mal autour.
Ce qui va se passer, c'est que moi, je vois,
c'est assez limité pour le moment.
Bien sûr, parce que là, c'est une question difficile. Mais ce qui me semble va se passer, c'est que vous allez voir partout le retour des cultures nationales. C'est-à-dire que vous allez avoir un développement d'une culture russe qui ira chercher Boris Godounov ou je sais pas qui, et puis une culture chinoise, les empires, et puis une culture malaisienne, et puis une culture indonésienne, et puis une culture philippine. Mais le temps de la culture unique mondiale, ça va avoir une florescence extraordinaire des cultures régionales.
Mais alors moi, je sais pas, en tout cas, je le perçois pas, ce truc-là. C'est-à-dire que je vois pas une culture française refaire surface. Alors après, peut-être que c'est parce que tout est administré, qu'on a tout qui est organisé par le gouvernement. Mais je ne vois pas.
Il y avait par exemple un cinéma français qui était très. On a qu'à simplement supprimer les subventions qu'on donne.
CNC,
le CMC, et puis ça reviendra, quoi. On a des acteurs, on a tout ce qu'il faut. Justement, tout ça, ça a été étranglé par la Commission européenne qui a voulu faire un truc uniformisé. Donc, non, si chacun, on fera des films qui coûteront rien. Ça coûte rien de faire un film aujourd'hui. Mais qui feront peut-être des centaines de millions de vues, parce que j'en sais. Donc, l'idée qu'on a besoin d'énormes productions et tout, ça me paraît une idée fausse. Peut-être. Et ça n'intéresse plus personne. Puis personne.
Alors, il semblerait tout de même que Pathé soit en train de bosser sur tout un tas d'assez grosses productions françaises, notamment de films historiques ou.
Mais voilà, vous avez, c'est le puits du fou, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que depuis le succès du Comte de Monte Cristo, ils se sont dit, ah, tiens, finalement, les gens, ils se déplacent au cinéma pour voir ça.
Ben, vous avez aussi, curieusement, c'était le film sur la guerre de Vendée qui avait fait le Puy du Fou, qui a fait 300-400 000 vues, je crois, je sais plus combien, ce qui était énorme parce que c'était fait avec des...
Et c'est surtout que c'était assez peu distribué dans les cinémas.
En plus, il y avait pendant l'Angle Grêle, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce film a eu un gros succès, alors que il avait été fait avec avec un budget complètement ridicule. Donc je crois qu'on va assister un peu partout, ça va être... La renaissance du Puy du Fou dans tous les pays du monde.
Oh, c'est possible, en tout cas, c'est sûr que le Puy du Fou a un immense succès et il y a beaucoup
mais
de gens qui...
maintenant, il y a un Puy du Fou en Espagne qui marche à travers la ville.
Tout à fait, il y a de plus en plus de pays qui veulent leur Puy du Fou. Parce que,
c'est-à-dire, ce qu'on va avoir vraiment dans les années qui viennent, on va avoir un mélange de l'histoire et de la culture qui va passer par le...
C'est possible.
C'est ce que les locaux veulent.
Mais
entendre parler d'eux-mêmes.
C'est tout à fait possible. Après, moi, peut-être que c'est uniquement à mon échelle, je ne sais pas, mais je vois pas actuellement de recul de la culture américaine. C'est-à-dire que ce soit sur les réseaux sociaux, tous les gamins, ils regardent les youtubeurs américains parce que maintenant, il y a les outils de traduction automatique. Le cinéma américain a quand même encore un grand succès.
Il y a les séries américaines qui...
Oui, les séries, mais même même le cinéma. Là, je voyais récemment, il y avait le film Marty Supreme qui sortait et ça fait un assez gros succès. Enfin, je veux dire, c'est j'ai pas l'impression que ce côté-là soit particulièrement en recul, ou en tout cas pas plus que qu'ailleurs, en tout cas.
Non, je dis pas qu'il est en recul, mais je veux dire qu'il va y avoir des développements qui vont se passer.
C'est une possibilité.
Si vous voulez, d'avoir des films où c'est toujours la même histoire, où c'est toujours le blanc qui est raciste et qui embête le noir, oui, qui est une victime et tout.
Alors ça, justement, c'est un peu, ils sont en train de rebrousser quand même le chemin là-dessus, parce que
j'en ai vu 42. Alors, quand il y a quelques années, j'avais mon dernier fils qui a regardé un truc à la télévision française, une histoire policière, et quand, à la fin, il était complètement bluffé parce qu'il m'a dit: papa, c'était pas le patron le coupable.
Ouais.
Parce que d'habitude, dans toute bonne série, c'est toujours le patron qui est l'ordure, quoi, qui finit, qui a tué mère et femme, qui a bouffé des enfants au petit déjeuner. Là, il était stupéfait parce que pour une fois, c'était pas le patron, il avait 12 ans. Hein. Donc, il avait bien compris comment ça marchait, quoi. C'est des...
Bien sûr, mais alors nous, en France, on est encore complètement là-dessus, même, je dirais, en Europe, de manière globale. Et les Américains, ils sont encore en train de décider. Il y en a qui commencent à rebrousser chemin par rapport au wokisme, d'autres qui sont encore dedans.
On va voir. Mais moi, tout ça m'intéresse parce que c'est... ça va faire partie d'une reconquête des cultures nationales, bref, contre la culture américaine. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de très net, si vous voulez, c'est que, aussi curieux que ça paraisse, et j'en suis pas heureux, mais les États-Unis sont détestés partout. Et ça, c'est perçu comme ayant été un ennemi, dans le fond, un ennemi caché pendant qui a tout fait pour nous. À tort ou à raison, c'est pas ça la question. Donc, où que vous alliez, au Moyen-Orient, en Europe, partout, maintenant, quand vous dites du mal des États-Unis, ce qui est pas mon genre, hein, mais vous êtes bien vu. Donc, il y a aujourd'hui un désir de s'affirmer contre les États-Unis.
Sans doute, oui.
Ça, c'est, on le voit partout.
Et est-ce que la Chine a raison de rester dans cette configuration actuelle?
Elle a une histoire, elle peut raconter des histoires. Elle, depuis,
ouais, ça, c'est
depuis 5000 ans, ils en ont des histoires à raconter. Donc, et d'ailleurs, ils font des très bons films. Hein. Il y a quelques années, il y avait ce cinéaste, je ne sais plus comment il s'appelait, qui avait fait... Lanterne Rouge, et qui avait fait des films admirables avec cette actrice chinoise qui était si belle, qui s'appelait... Enfin, je deviens gâteux.
Alors là, je ne vais pas vous aider.
Non, c'était il y a 20-30 ans. Kong Li. Elle était superbe. Et ben, il y avait eu toute une série de films comme ça qui étaient... Et donc, ça va revenir, c'est-à-dire que...
Ouais.
Et quand je regarde les trucs chinois, je vois des machins qui se passent... soit ils se battent contre des Japonais, qui n'ont pas l'air gentils, hein,
oui,
dans l'ensemble. Ça, c'est 45, quoi.
C'est l'équivalent de nos Allemands à nous, dans nos films historiques. Voilà. Ils ont les Japonais.
Eux, ils ont les Japonais qui sont toujours ridicules, maladroits, qui se prennent les pieds dans le tapis. Enfin, ça, c'est tout à fait comme la grande vadrouille, allez. Et puis, ils ont un autre tout d'un cas où les gars, ils ont des trucs de guerre, et puis ils se battent à cheval, ouais, en tirant des flèches sur le cheval et tout. Donc, ça, je sais pas ce que c'est comme histoire, mais ça doit être intéressant aussi.
Et ce, pour le coup, d'un point de vue culturel, qui arrive très bien à s'exporter, c'est les Coréens.
Alors, là-dessus,
ils sont très, très forts.
Ils sont très,
sur leur série,
Coréens,
leur
il y a
film,
plein d'artistes. Hein.
Mmh. Ouais, tout à fait.
J'ai vu aussi, j'avais été à Bâle. Vous savez, les grandes expositions d'art moderne et tout. Mmh. Il y en avait une à Hong Kong, et j'avais vu les Coréens, ils faisaient des choses vachement bien. Hein.
Ouais, tout à fait. Non, ils sont assez forts là-dessus. Ouais, tout à fait.
Donc, grosso modo, si j'ai raison, on a eu une espèce de culture mondiale un peu forcée, sous le contrôle de... Maintenant, on devrait avoir une véritable explosion de culture locale avec les gens locaux. Ça a commencé chez nous, d'ailleurs, avec Philippe de Villiers. Hein. Mmh. C'est ce qu'il fait.
Ouais. Complètement.
Et ça marche très bien. Donc, on devrait avoir ça un peu partout, parce qu'il y a une demande partout.
Oui.
Et puis, la demande, c'est d'où est-ce que je viens.
C'est certain. En tout cas, il semblerait que le marché, surtout Pathé Gaumont, il semblerait qu'ils ont commencé à identifier la chose. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas faire des films trop chers, qu'ils ne vont pas suffisamment
non,
leur rapporter.
Ce que j'espère, c'est qu'avec la technologie moderne, vous pouvez faire des films qui coûteront trois fois rien. Et on va découvrir des gars qui feront des films qui seront des grands succès, qui leur auront coûté 200 000 francs à faire, quoi.
Ouais.
200 000 euros à faire,
ouais,
rien. C'est ce que j'espère. Parce que aujourd'hui, la technologie
aussi
le permet. Hein.
Ouais.
Regardez, il y a 20 ans qu'on a créé l'Institut des Libertés avec Emmanuel. Faire des tournages comme ça coûtait 10 000 euros par tournage, je ne sais plus quoi. On avait arrêté parce qu'on s'était dit on ne peut pas. Mais aujourd'hui,
ouais,
ça ne coûte rien.
Ouais.
Ce qui vous permet de bénéficier de... Non, mais je veux dire, ça, les choses,
ouais,
la
sûr,
technologie est en train d'évoluer pour que les décisions soient de plus en plus prises À l'échelle individuelle plus qu'à l'échelle des grands groupes, c'est vrai dans la gestion.
Ça rend tout à fait les petits groupes plus concurrentiels.
Ben évidemment.
Ça, pareil, on va le voir certainement dans le jeu vidéo. Je pense que les studios indépendants,
On voit dans le jeu vidéo, mais regardez, on le voit dans la gestion. Regardez, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec l'université d'épargne? Ben, c'est sortir l'épargne de ces grands groupes qui la gèrent comme des cochons et qui sont hors de prix et qui ne servent plus à rien. Mais ça va se passer partout. S'il y a ce qu'on appelle un empowering, c'est-à-dire on donne le pouvoir à des gens petits de faire des choses que seuls les grands pouvaient faire autrefois. Ça va être phénoménal.
Tout à fait. Je crois qu'on peut terminer cette émission là-dessus.
Ouais, ouais, moi je suis très content parce qu'enfin on va me foutre la paix, je vais pouvoir faire ce que je veux.
C'est vrai, c'est ça. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt sur l'Institut des Libertés et aussi sur l'Université de l'Épargne. N'oubliez pas, si vous voulez avoir un peu plus de contenu, quelques idées de comment gérer son portefeuille, etc. Vous pouvez aussi vous prendre un petit abonnement à l'Université de l'Épargne, c'est pas interdit. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Et merci encore.